Voilà, alors je suis content d'être là parmi vous. Je vous cache pas que j'ai aujourd'hui une tâche difficile. Et vous allez voir que le sujet dont nous allons parler est à la fois très intéressant et puis bon, très riche, mais demande un peu de courage. Alors on va vite commencer. Je suis donc comme toutes ces dernières semaines avec les différents prédicateurs qui avons fait le tour dans l'église dans l'épître aux Éphésiens. Et donc on est arrivé dans Éphésiens 5. On sera aujourd'hui dans la deuxième partie d'Éphésiens 5. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, dans Éphésiens 5, dans Éphésiens en général, on a six chapitres. Les trois premiers par lesquels on a commencé sont assez théoriques, disons, racontent l'essence de l'évangile, le plan de Dieu, le grand plan de Dieu. Et puis les chapitres 4 à 6 sont plus pratiques. Et l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre à une église dans la ville d'Éphèse, met vraiment les deux en relation. Il explique comment la théorie, comment la vérité de l'évangile doit avoir un impact dans nos vies individuelles et dans la vie de l'Église en général. Et donc, la semaine dernière, il y a eu des points très pratiques liés à voilà, comment notre vie nouvelle doit être différente de notre vie ancienne, de quoi est-ce qu'on est censé nous dépouiller pour plutôt prendre les attributs de Christ et ressembler à Jésus-Christ. Et donc il y avait des choses aussi, on va dire, difficiles ou négatives dans le début du chapitre 5. Mais aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus positives, qui sont plus non seulement les choses individuelles dans le cœur de l'homme, mais aussi les relations. Et on va commencer d'ailleurs, ça continue dans le chapitre 6, pour la semaine prochaine, comment vivre nos relations à la lumière de l'évangile, comment les réalités incroyables de l'évangile peuvent être vécues dans nos relations, et en particulier aujourd'hui dans les relations entre les maris et les femmes. Alors, je vais lire tout de suite le chapitre, enfin, les versets 22 à 33 d'Éphésiens 5, et puis on va vite entrer dans le vif du sujet. Alors, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, les couples mariés vont très vite se sentir concernés. Y compris moi. Alors là, c'est vraiment une prédication où on ne peut pas passer à côté de se sentir concerné. C'est pas théorique, ouais, peut-être un jour. Non, mais là, c'est je vais sortir de l'église tout à l'heure et je sais que je serai concerné. Et alors, c'est tant mieux parce que c'est pour ça que ça a été écrit, hein. C'est pour ça que Paul, inspiré par Dieu, l'écrit. C'est pas pour que ce soit quelque chose d'étranger, c'est pour que ça ait un impact dans nos vies. Et donc c'est tant mieux de se sentir visé ou concerné. Mais, et les célibataires alors? Est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés? Alors, bon, déjà, les célibataires peuvent peut-être un jour dans le futur se marier, hein, donc c'est toujours bien de se sentir concerné aussi, mais surtout, ce qu'on va vouloir voir dans ce chapitre, c'est que les choses concrètes dont on parle avec les maris et les femmes sont aussi une image de réalités spirituelles qui sont valables pour tout le monde. Et c'est vraiment, enfin, j'encourage aussi ceux qui ne sont pas mariés en ce moment dans cette salle ou qui nous écoutent à se sentir concernés également parce que c'est une leçon pour tous et ça pose des questions qui fâchent pour tous, même ceux qui ne sont pas mariés. Alors on va voir ça en trois parties qui correspondent un peu au fil du texte. D'abord, il y a une partie, on va dire, plus liée à la femme, à la manière d'agir de la femme, à son rôle. Puis il y a une partie liée à l'homme qui aime sa femme, versets 25 à 27. Et puis ensuite, dans la troisième partie, c'est plutôt lié à l'unité, à la non plus homme et femme séparément, mais au fait qu'ils sont un, qu'ils sont une seule chair, qu'ils sont unis, et comment ça doit avoir des impacts sur leur relation. Et dans chacune de ces parties, nous verrons qu'il s'agit aussi de réalités spirituelles. C'est pas uniquement pour les hommes. Quand on parle des femmes, c'est pas uniquement pour les femmes. Quand on parle des couples, c'est pas uniquement pour les couples. Il y a vraiment partout de quoi en retirer pour tout le monde. Alors, juste puisqu'on parle un peu de rôle, est-ce que certains d'entre vous sont peut-être adeptes de jeux de rôle? Je sais que depuis très longtemps, il y a les donjons et dragons, ou comment ça s'appelle, les loups-garous, là, où on tire un rôle à chaque partie, et puis on est dans une équipe ou dans une autre, en fonction du rôle qu'on a tiré. On a des compétences spéciales, et on a un but spécial. Il y a aussi un jeu, je sais pas si vous jouez à Risk, mais dans Risk, chacun tire un but, qui est même caché d'ailleurs, une condition de victoire qui est différente selon les différentes personnes. Et puis il y a un jeu un peu plus récent, qui s'appelle Pandémie. Alors, il a été édité avant le Covid, hein, mais c'est vrai qu'il a gagné beaucoup en popularité depuis la pandémie. Et c'est un jeu où on tire un rôle chacun. Donc là, j'ai les cartes des rôles de pandémie. J'ai le répartiteur qui permet de déplacer un pion d'un autre joueur comme si c'était le vôtre. J'ai l'expert aux opérations qui peut construire une station de recherche. J'ai le scientifique qui peut faire des découvertes de remèdes plus facilement que les autres. Bon, tout ça pour dire, il y a des rôles et des compétences, une manière de jouer ce rôle qui permet de gagner. Et puis l'avantage dans Pandémie par rapport à d'autres jeux, c'est que c'est un jeu coopératif. C'est un jeu où les joueurs, malgré leur rôle différent, leur manière différente de jouer, ont le même but. Et ils gagnent ou ils perdent ensemble. Et je voulais montrer cet exemple parce que le mariage ressemble un petit peu à ça. C'est comme un jeu de rôle, on joue un rôle, alors pas pour faire semblant, hein, mais pour vraiment gagner ensemble avec un but commun. Et c'est vraiment ça le mariage, on a un but commun même si on est différent et qu'on a quelque chose d'unique à apporter dans la partie, on va dire. Alors, on va commencer avec le rôle des femmes. Les femmes d'abord, hein, la galanterie, puis c'est comme ça que le texte le démarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais concernant les femmes, il y a beaucoup moins de choses que pour les hommes. On est si on compte, c'est à peu près 2,5 versets pour les femmes, et puis je crois 9 pour les hommes, quelque chose comme ça. Donc on va commencer par les femmes, mais les hommes, soyez pas, vous serez pas en reste, vous inquiétez pas. Alors, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Une seule instruction, c'est facile, non? Tant qu'il n'y a pas de, c'est pas très complexe, c'est assez simple. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Vous diriez que c'est facile, vous? Et puis, c'est pas juste soumis, c'est soumis en tout. Hein. Verset 24, les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. C'est soumise comme au Seigneur. Alors là, on va voir que c'est un peu plus, tout de suite un peu plus difficile. Hein. Alors, juste pour clarifier ce que ça veut dire, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, on va aussi dire ce que ça ne veut pas dire. Hein. Donc, déjà, ça ne veut pas dire que les femmes seraient, de manière inhérente, inférieures aux hommes. Il y a une manière très fausse et malsaine de lire ce chapitre, qui serait de dire, ben voilà, les femmes sont les esclaves des hommes, toutes les femmes sont inférieures aux hommes, les femmes ne peuvent pas être chefs d'entreprise, ou ne peuvent pas ceci, cela. Non, ça n'a rien à voir, rien. Ah ben, c'était une erreur. Par contre, il y a aussi une autre manière un peu plus subtile, ce serait de dire, bah alors les femmes sont soumises aux hommes. Non, c'est pas les femmes, c'est même pas les femmes sont soumises aux hommes, c'est la femme, dans le cadre du mariage chrétien, est soumise à son mari. Si tu es une femme, tu vas pas être soumise à tous les hommes. C'est pas ça que dit le passage. C'est juste dans un cadre particulier, le mariage, décrite par Dieu de bien vivre cette relation, c'est que la femme soit soumise à son mari. Et puis ce que ça ne veut pas dire non plus, c'est que l'homme devrait soumettre sa femme. Hein? C'est pas une bataille à la fin de laquelle le vaincu se fait soumettre et enchaîner par le vainqueur. Ça n'a rien à voir. C'est la femme d'elle-même volontairement qui se soumet à son mari. Et c'est ça en fait la carte, alors j'ai pas la carte de la femme là du mariage, mais la carte du rôle femme, c'est voilà, pour bien jouer, pour gagner la partie, le but, la quête intermédiaire, on va dire, c'est être soumise à son mari. Et c'est pas rien, c'est, comme on vient de voir, en tout, comme au Seigneur. D'ailleurs, il y a un demi-verset tout à la fin qui reparle des femmes, c'est 33, deuxième moitié, que la femme respecte son mari. En fait, là, c'est dit de manière douce, respecte son mari, mais le mot, c'est phobéo. C'est le même mot que craindre l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, l'explication est aussi dans ce qualificatif comme au Seigneur. Parce que le rôle à jouer, c'est pas juste un rôle arbitraire ou quelque chose de bête et méchant. C'est parce que c'est un rôle à jouer qui appelle l'homme et la femme à représenter le rôle de Christ et de l'Église. Et c'est uniquement en comprenant cette dimension-là qu'on comprendra l'importance et la manière de que la femme se soumette à son mari. Parce que si on lit hâtivement, on pourrait dire, ben voilà, dans le cadre du mariage, la femme est l'esclave de son mari, c'est bon, c'est fini. Mais c'est pas non plus ce que ce texte veut dire. Ce que ce texte veut dire, c'est que la femme et le mari représentent Christ et l'Église. Dans le mariage chrétien, on se marie avec une dimension additionnelle qui est de montrer au monde, de vivre dans le quotidien la relation entre Christ et l'Église. Et là, vous voyez que le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle avec une dimension spirituelle. C'est un rôle comme peut-être une pièce de théâtre, mais où on est censé représenter la relation entre Christ et l'Église. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Vraiment? Représenter Christ? Représenter l'Église? Dans notre vie quotidienne? C'est illusoire. C'est impossible. C'est impossible de jouer ce rôle, même en faisant semblant. Et en plus, le but, c'est pas de faire semblant, c'est de le vivre de manière profonde. Ben, probablement qu'on n'en est pas capable. Probablement que c'est un idéal inatteignable pour l'instant. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une double dimension. La première, c'est que pour bien vivre dans notre vie de couple, on peut s'inspirer de la manière dont Christ et l'Église agissent. Pour bien vivre les moments difficiles dans un couple, les moments de désaccord ou de dispute, rappelons-nous, mais comment c'est géré dans la relation entre Christ et l'Église. Et inversement, quand on pense à Christ et à l'Église et qu'on essaye de comprendre, mais comment ce Seigneur incroyable agit, qu'on peut essayer de comprendre son fonctionnement, on peut se référer au couple idéal. On peut se référer à, même s'il n'y a pas de couple parfait autour de nous ou parmi nous, on a quand même cette notion de qu'est-ce que c'est un couple idéal, qu'est-ce que ça devrait être. Et là, on se dit, ah voilà, Christ et l'Église, on peut comprendre comment ils vivent, comment ils fonctionnent, quelle est la nature de Christ quand on se réfère à qu'est-ce qu'un couple idéal. Et nous inspirer de ça pour, voilà, pour comprendre dans notre vie comment individuellement, même si on n'est pas marié, comprendre comment Christ agit envers nous et comment nous, qui faisons partie du corps de Christ, qui faisons partie de l'épouse, de l'Église, comment est-ce qu'on doit nous soumettre à Christ. Et donc la vraie question de ce passage, de ces trois versets-là, c'est êtes-vous soumis à Christ? Et c'est pour tous. C'est individuellement, et c'est aussi l'Église dans son ensemble et dans notre communauté locale aussi, et chaque communauté, est-ce que nous sommes soumis à Christ? C'est ça la vraie question. Et bien sûr, la question annexe, disons, plus pour les femmes, êtes-vous soumises à votre mari? Et ça, je vous laisse y répondre individuellement. Alors, on va dire, quand même, c'est plus facile de se soumettre à Christ qui est parfait qu'à un mari qui est imparfait. Vraiment? Est-ce que c'est... Et alors, juste la première partie, est-ce que c'est facile de se soumettre à Christ? Est-ce que c'est facile? Il est parfait. On sait qu'il sait tout, qu'il sait ce qu'il nous faut, qu'il veut notre bien. On le sait. Il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que c'est facile, pour autant, de se soumettre à Christ? Donc, même là, il y a un vrai défi. Même là, il y a un vrai défi. Se soumettre à Christ, c'est pas évident. Et ça se travaille, ça se vit. Et on peut progresser pour cela. Et d'ailleurs, c'est pas dit non plus, même dans le cas concret des femmes et des maris, c'est pas dit, soyez soumise à votre mari quand il est gentil ou... quand il est parfait, ou s'il a raison, ou le lundi et le jeudi. C'est tout le temps, voilà, en tout. C'est difficile, hein? En fait, il y a un peu la même idée à partir du chapitre 6, entre les parents et les enfants. Si vous êtes marié, peut-être vous avez aussi des enfants, et vous avez le même problème, peut-être de manière un peu moins tendue que les relations hommes-femmes, c'est vis-à-vis des enfants. Les enfants sont censés obéir aux parents, comme nous, chrétiens, on a un Père céleste, mais notre Père terrestre, lui, il n'est pas parfait. Et donc l'image, la double image, de pour comprendre notre Père céleste, on peut regarder les Pères terrestres, comment ils sont, mais ils ne sont pas parfaits. Et puis inversement, pour être un bon Père terrestre, peut s'inspirer de comment notre Père Céleste agit envers nous. Et les enfants sont censés obéir aux parents, même si les parents ne sont pas parfaits. Bon, je ne parle pas plus des parents et des enfants, parce que ce sera le sujet de la semaine prochaine. Mais, voilà un peu, pour revenir aux femmes et aux maris, et à la femme qui se soumet à son mari, Est-ce que c'est encore nécessaire depuis l'émancipation de la femme? Est-ce que c'est pas dépassé maintenant ce passage? Est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose? En fait, comme on disait tout au début, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La soumission homme-femme dans le cadre du mariage n'a rien à voir avec, n'a rien de dégradant. C'est pas un mode de fonctionnement tordu. C'est ce que Dieu a prévu pour l'homme et la femme, en fait, dans le cadre d'un mariage chrétien. Ça n'a rien à voir avec les injustices envers les femmes dans le monde, qui sont issues du péché de l'homme, qui sont issues de la société corrompue par l'homme. C'est complètement autre chose et faut pas faire l'équivalence entre les deux. Et d'ailleurs, la question se pose aussi au niveau spirituel. Est-ce que vous pensez vraiment que depuis que les femmes ont plus de droits, l'Église aurait moins à se soumettre à Christ? Ça n'a rien à voir. La réalité spirituelle de l'Église qui se soumet à Christ, c'est toujours tout aussi valable qu'il y a 2000 ans, quand ces choses ont été écrites. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Parce que, bon, jusque-là, j'ai posé des questions qui fâchent, mais c'est difficile d'y répondre, en fait, de donner la marche à suivre pratique. Et en fait, une manière de voir la chose aussi, c'est une fois de plus de regarder ce que Christ fait vis-à-vis de l'Église. Est-ce que, ou vis-à-vis de nous? Est-ce que le Seigneur Jésus vous a déjà, comment dire, forcé physiquement à quelque chose? Enfin, la soumission de l'Église à Christ ne passe pas par une maltraitance ou comment dire, un exercice de l'autorité du Seigneur Jésus qui soit dur, absolu. En fait, quand on obéit au Seigneur, c'est aussi qu'on est convaincu qu'on doit obéir au Seigneur. Quand on obéit au Seigneur, c'est que on a compris que il a raison, que il fait les bonnes choses pour nous et que nous pouvons lui obéir. Et finalement, c'est un peu pareil entre l'homme et la femme dans le couple. Ça justifie pas du tout que l'homme doive imposer sa volonté. Ça justifie pas cette manière de faire là est vraiment ce qui reste normalement dans un couple qui fonctionne, c'est la communication. C'est trouver, se mettre d'accord, trouver le terrain d'entente. Alors, si jamais on n'est pas d'accord, oui, c'est que c'est un peu comme dans un contrat, si vous voulez. J'ai dans mon entreprise, quand il y a quelqu'un qui part, le contrat est assez dur parce qu'il y a une clause de non-concurrence qui empêche la personne d'aller travailler ailleurs pendant longtemps. Bon, donc si quelqu'un part de manière fâchée, ce qui est appliqué, c'est les clauses du contrat. Et c'est embêtant pour tout le monde. C'est embêtant pour l'entreprise et c'est embêtant pour l'employé. Alors que s'ils se mettent d'accord, ça peut être beaucoup mieux. S'ils se mettent d'accord parce que ils s'entendent et ils veulent leur bien mutuel, ben on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'application bête et méchante du contrat. Ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et c'est vraiment ça ce que je recommanderais, c'est l'autorité, on va dire, de l'homme, la femme qui se soumet à son mari, finalement, c'est plus un garde-fou, une idée quelque part à laquelle on ne devrait pas avoir beaucoup recours. Parce que si dans le domaine spirituel on a compris exactement ce que Dieu veut de nous, c'est comme ça qu'on va se soumettre à Christ. C'est comme ça qu'on sera convaincu qu'il a raison et qu'il veut notre bien et qu'on aura compris. Et je pense que, bon, en l'expliquant un peu comme ça peut être vécu de manière très belle dans le couple aussi. Voilà, je vais pas donner d'exemple plus concret, mais simplement je vais reposer la question pour finir cette partie. Êtes-vous soumis à Christ? et êtes-vous soumis à votre mari? Et j'irai un peu plus loin pour l'histoire des femmes et des maris. Est-ce que votre mari le sait? Est-ce que si on lui demandait, qu'est-ce qu'il dirait lui? Et si on demandait à Christ aujourd'hui, est-ce que un tel est soumis à Christ? Qu'est-ce qu'il dirait lui? Bon, je ne réponds pas à la question. Alors, maintenant il faut passer au mari aussi. Hein. Alors, versets 25 à 27. Marie, aimez chacun votre femme. Quel est le rôle du mari? En fait, il y en a plusieurs, mais la première ligne dans le rôle du mari, c'est aimer votre femme. Chacun sa femme. Alors, aimer, là, c'est un ordre. Aimer, ça, est-ce que ça se commande? Aimer, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... qui puisse être recommandé? Eh bien, ici, c'est un ordre. Et en fait, c'est pas étranger dans la Bible, à beaucoup d'autres endroits, on demande d'aimer. Et pour ça, l'introduction de Tim était tout à fait à propos. Dans Jean 15, on dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il rappelle, on peut rappeler aussi, dans la loi, c'était « Aime ton prochain comme toi-même ». C'était un ordre, ça faisait partie de la loi, c'est le deuxième plus grand commandement, comme disait Jésus. Jésus l'a vécu, et il l'a redit, et il l'a même amplifié en disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Et puis il y a d'autres ordres difficiles, un peu comme ça, dans la Bible. On peut, si je prends 1 Thessaloniciens 5, 16 et 17, on a « Soyez toujours joyeux ». Ça, c'est un ordre aussi un peu pas facile à vivre. Les fois où nous sommes tristes ou découragés. Ou bien il dit prier sans cesse. Alors là, c'est des ordres pareils. Avec un niveau d'exigence vraiment extrême. Et bien, c'est pareil pour l'amour. Dieu a demandé aux maris d'aimer chacun leur femme. C'est un ordre. Alors... il s'agit vraiment de l'amour aussi agapé ici. C'est pas uniquement le coup de foudre, les papillons dans le ventre et tout ça. Qui peut-être ça se maîtrise pas, ou ça se maîtrise pas aussi bien clairement que ce que Dieu nous demande. Ça aide, mais parfois on commande pas. Par contre, l'amour que Dieu a demandé aux hommes d'avoir pour leur femme, celui-là, il se commande. Et en fait, il se commande parce que, une fois de plus, il est là pour montrer quel est l'amour de Christ pour l'Église. Parce que c'est aimer votre femme, mais comme Christ a aimé l'Église. Alors, vous vous rappelez comment Christ a aimé l'Église? Il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de ses attributs divins, il est venu vivre comme un homme dans une époque... pas facile à vivre, sous l'occupation romaine, voilà, il est né dans une étable, tout ça il l'a vécu par amour pour l'Église, pour l'humanité, pour nous sauver. Et puis il est allé jusqu'à la mort. Aimer notre femme comme notre mari, ça veut dire aimer jusqu'à la mort en fait. Est-ce que vous les maris, vous accepteriez de mourir pour votre femme? Est-ce qu'elle le sait?
Non.
Je ne demande pas de répondre. Hein, mais... Et d'ailleurs, tout simplement, est-ce qu'elle sait que vous l'aimez? Vous lui avez dit aujourd'hui? Tous les jours, vous dites « je t'aime ». Ça vaut le coup, hein? Et vraiment, c'est, une fois de plus, c'est pour rappeler à quel point Jésus a aimé l'Église. Pour rappeler que Christ a eu un amour incroyable pour l'Église. Et c'est comment montrer aux autres, bah déjà comment montrer à sa femme, mais comment montrer à sa famille, aux gens autour de nous, comment montrer l'amour de Christ, quel meilleur moyen que d'aimer sa femme et que ça se voit. Et comme pour les femmes qui se soumettent à leur mari, on a une fois de plus ce double sens, cette double manière de s'inspirer. Pour être un bon mari, on imite Christ. Pour être un bon mari qui aime sa femme, on imite Christ qui a aimé l'Église. Et puis, pour être, on va dire, un bon chrétien, pour vivre la vie que Dieu veut pour nous, eh bien, on peut imiter ceux qui sont des bons maris. Pour aimer notre prochain, pour aimer ce que Dieu nous demande d'aimer. Et pour aimer notre prochain comme soi-même. Alors c'est ce qu'on va voir aussi dans la partie suivante. Mais juste, je reviens un petit peu sur les versets 26 et 27 parce que il y a un deuxième rôle du mari qui est décrit là, que Christ a fait pour l'Église. Il a sanctifié l'Église. En plus de la sauver, il l'a rendue belle et parfaite. Alors, imaginez-vous une cérémonie de mariage. La mariée, c'est censé être la plus belle. Elle a une robe blanche, éclatante. Elle a passé 2 heures à se maquiller. La coiffeuse est venue à domicile. Il y a un bouquet exprès pour toute la journée, pour la mariée, le bouquet de la mariée. Voilà, la mariée est censée être parfaite. Alors nous, comment on fait ça humainement dans les cérémonies de mariage? Ben voilà, on met de l'anticerne, de l'antiride, voilà. Bon, Christ, lui, il fait ça de l'intérieur. Il est en train de rendre son épouse parfaite, glorieuse, sans tache ni ride, de l'intérieur. Il ne va pas juste mettre le maquillage qui va fondre au cours de la soirée. Bon, je suis pas très maquillage, moi, donc peut-être ça correspond pas à la réalité, mais voilà. Christ le fait depuis l'intérieur, une vraie transformation intérieure. C'est le vrai anti-cerne et anti-ride qui marche. Alors, il marche pas pour physiquement, mais il marche pour faire paraître l'Église glorieuse. Et finalement, c'est aussi un rôle que le mari doit avoir vis-à-vis du couple, de sa famille aussi. C'est l'autorité spirituelle qui fait progresser tout le monde pour progresser avec Dieu. Voilà, pour... Comment dire? Pour devenir... beau et glorieux comme Christ le fait avec l'Église, comme c'est ce que Dieu veut pour nous individuellement, chacun. Il veut que nous progressions et que nous ressemblions plus à l'image de Christ, que nous vivions plus comme lui le veut. Et ça, c'est vrai une fois de plus, c'est vrai pour chacun, c'est pas uniquement pour les maris et les femmes, c'est vrai pour chacun individuellement. C'est ce que Jésus veut que nous fassions. Et puis dans le cadre du couple et du mariage, au mari revient un peu un rôle additionnel, une responsabilité additionnelle, on va dire, de veiller au développement spirituel du couple et de chacun dans la famille. Alors, on va passer à la troisième partie, à partir du verset 28. L'unité, une seule chair. Alors là, on arrive à un thème qui nous relie encore plus au reste d'Éphésiens. Parce que depuis le début d'Éphésiens, même dans la partie théorique, Paul disait, mais voilà, les amis, Dieu a réuni... Tous les chrétiens, il les a sauvés, il les a rassemblés en un seul corps. Il les a unis. Il les a unis entre eux et il les a unis à Christ. Et c'est cette unité-là dont on va parler. Parce que il a uni, on a vu, les juifs et les non-juifs pour qu'ils fassent partie d'un seul corps. Et il les a unis à Christ. Il a uni tous les chrétiens entre eux. Et c'est de ce corps-là dont on va parler. En fait, au chapitre 4 aussi d'Éphésiens, Paul a commencé dans le début de la partie pratique à expliquer que dans le corps de Christ, il y a des membres différents, mais ils doivent être unis dans un seul corps, et le chef, la tête de ce corps, c'est Christ. Donc voilà ce qu'on doit vivre dans le couple également, puisque l'autre, on va dire le troisième rôle ou responsabilité donné au mari, c'est d'aimer la femme comme leur propre corps et de prendre soin d'elle. Verset 29, il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alors, une fois de plus, les époux jouent le rôle de Christ et de l'Église. Et pendant longtemps, c'était un peu un acte prophétique. Les gens se mariaient, mais avant que Jésus n'arrive, avant qu'on parle de l'Église. Ils se mariaient, mais depuis cette phrase dite par le Seigneur au commencement, quand il a créé l'homme et la femme et qu'il a institué le mariage, et c'est ce qui est directement cité là dans le verset 31, c'est une citation exacte de Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà l'institution du mariage, et pendant des millénaires, les gens se sont mariés, mais sans savoir que ça allait représenter Christ et l'Église. C'était une sorte d'action prophétique, on peut dire. Et nous, maintenant, nous savons que, comme Paul nous le dit, c'est pour représenter Christ et l'Église. Et ce caractère de Christ dont on va parler dans ces versets-là, c'est aussi une leçon pour les maris, c'est aussi une leçon pour tous. Mais Christ, lui, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Nous pouvons lui faire totalement confiance qu'il va subvenir à nos besoins, qu'il va prendre soin de nous comme si nous étions son corps. Puisque spirituellement, il dit, nous sommes son corps. Et finalement, c'est ça la question qui fâche, qui est posée dans ces versets-là. C'est, bah, d'une part, les maris, est-ce que vous prenez soin de votre femme? Et puis, pareil, est-ce qu'elle le sait? Si on demandait à la femme, est-ce que votre mari prend soin de vous? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance qu'il connaît vos besoins, qu'il les anticipe? Si on demande au mari, alors quel est le besoin actuel de votre femme? Qu'est-ce qui lui manque? Si vous savez répondre, eh ben, c'est bien. Et puis, c'est une leçon pour tous, c'est la leçon de l'unité, comme on disait dans le début d'Éphésiens. Voilà, être unis dans un seul corps, c'est vraiment pour tous. L'Église est un corps que Jésus veut faire paraître uni, et malgré les différences, les caractères, compétences, personnalités différentes dans l'Église, le but c'est d'être unis et d'être un seul corps. Et c'est donc une leçon aussi pour nos églises. Est-ce que dans l'Église on est unis? Est-ce que nous sommes unis dans nos relations les uns avec les autres? Et c'est ce que disait Tim tout à l'heure. L'unité, elle est voulue par Christ, elle est indispensable au bon fonctionnement de ce corps. Et en fait, pour les maris et les femmes, la question, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes unis? Si vous n'êtes pas unis, comment prétendre être unis avec les autres, des gens, d'autres familles, des inconnus, si vous n'êtes pas unis avec votre mari, votre femme? Comment dire qu'on est unis à Christ, qu'on ne voit pas si on n'est pas unis à notre mari ou notre femme? Et en fait, je dis ça en faisant écho aussi à une autre facette que Jésus développait dans son sermon sur la montagne. Il disait, mais comment peux-tu dire « j'aime Dieu » alors que tu haïs ton frère? Ça ne colle pas. Et là, c'est un peu la même chose. L'unité qu'on recherche et qui est bonne envers les uns avec les autres, elle se vit en premier aussi dans le couple. Et le couple est à la fois une démonstration de ce que ça devrait être d'être uni, et puis inversement, pour être uni dans le couple, on peut nous inspirer de la manière dont Jésus fait vivre l'unité entre lui-même, Dieu, et puis un homme qui qui se donne à lui, qui se convertit et l'accepte comme son Seigneur. Alors, cette unité, ce parallèle, quand on veut le vivre dans le couple, on a parfois cette image du triangle où on a l'homme et la femme à deux coins du triangle et puis Dieu au troisième coin. Et puis on dit, ben, pour que l'homme et la femme se rejoignent, pour qu'ils soient plus unis, le meilleur moyen, c'est que chacun de leur côté, ils soient unis à Christ. Et puis si de leur coin dont ils partent, chacun progresse et devient de plus en plus unis à Christ, ils seront également plus unis l'un avec l'autre. Et voilà comment vivre cette unité, comment être encouragé pour mettre les choses dans l'ordre, quoi. Ça sert à rien d'essayer d'être unis dans l'Église, les uns avec les autres, ou dans le couple, si on ne cherche pas aussi l'unité avec Christ, si on ne cherche pas à ressembler à Christ. Et donc, voilà, dans les deux sens, ça fonctionne comme ça. Et puis, une dernière remarque liée à ça, c'est que c'est difficile de vivre cette réalité spirituelle, c'est difficile de jouer ce rôle de Christ et l'Église quand on est un mari et une femme dans un couple où l'un des deux n'est pas chrétien. Et c'est, même si c'est pas explicitement dit dans ce texte, je veux rappeler quand même que voilà, ce mariage chrétien, il est appelé à être entre un homme et une femme qui chacun sont unis à Christ. Sinon, c'est difficile de jouer ce rôle. Et c'est pour ça que le mariage chrétien, il est entre un homme et une femme. Alors bien sûr, il y a des cas où un conjoint se convertit alors que l'autre n'est pas encore converti, bien sûr. Ça, c'est des cas qui sont tout à fait décrits par l'apôtre Paul à d'autres endroits. Mais le mariage chrétien idéal, tel qu'il est décrit ici, il est entre un homme et une femme chrétien. Et je dis entre un homme et une femme. C'est pas autre chose. Et puis, il n'est pas non plus, il n'y a pas non plus la dimension, on va dire, temporaire ou, disons, pour dire crûment, le divorce n'est pas une option ici, parce que les difficultés, bien sûr, peuvent arriver, mais vivre l'unité, c'est jusqu'au bout, c'est comme celle de Christ et de l'Église. Il n'y a pas une option pour divorcer entre Christ et l'Église. Il n'y a pas une séparation éventuelle. Non, il s'est vraiment donné jusqu'à la mort. C'était définitif. Et il l'a fait par amour. Et puis, ça suit son cours. Voilà. Alors, la conclusion de Paul, avec les deux derniers versets, 32 et 33, elle est double. Il conclut sur la dimension spirituelle, par dire « ce mystère est grand ». Alors, c'est sûr qu'on ne va pas expliquer, ni avec ces quelques lignes, ni en le vivant dans nos vies quotidiennes, on ne va pas pouvoir expliquer totalement la dimension de Christ et de l'Église. Le but, ce n'est pas de nous prendre pour des parfaits, des Christ ou des Églises. C'est dans notre quotidien, nous pouvons faire ressortir des caractéristiques qui nous montrent, qui nous pointent du doigt les réalités spirituelles qui, elles, sont très très grandes et ne se réduisent pas que à cette dimension-là. Y a plein d'autres aspects, mais voilà un exemple qui nous aide à comprendre les réalités spirituelles et qui nous aide à comprendre combien Dieu nous a aimés. Et puis, il le dit, voilà, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, comme si le mystère humain des couples était moins mystérieux finalement. C'est un peu plus on est un peu plus humain, quoi. C'est la vie de couple, quoi. Il y a toujours des choses imparfaites, alors que dans la partie de Christ et de l'Église, il y a une perfection incroyable. Et puis il conclut aussi sur la partie pratique. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors là, je ne vous réapprends rien d'autre que on a dit le rôle de la femme respecter son mari. Ici, c'est voilà, c'est craindre son mari. Et le rôle du mari condensé en aime sa femme comme lui-même. Donc déjà aimer sa femme, mais aussi la partie en prendre soin comme soi-même. Et puis, on avait aussi le rôle de l'autorité spirituelle qui doit être pris en charge par le mari. Et puis pour finir, je ne peux que répéter l'histoire de l'unité. Je vais pas continuer à développer ça parce que ce sera encore au chapitre 6 un thème principal. Mais vraiment, je pense que c'est, on le voit ici, l'unité, c'est un thème principal de tout Éphésien. C'est bien sûr, Paul a écrit ça pour nous montrer les réalités spirituelles, mais la conséquence pratique numéro un, c'est l'unité dans nos relations, les uns avec les autres, dans tous les cas, et puis entre les maris et les femmes, dans ce passage. Alors notre rôle à jouer et le but du jeu, c'est, on a chacun son rôle, mais c'est un jeu de coopération, c'est comment montrer le plus autour de nous la glorieuse réalité de l'Évangile, comment montrer le plus autour de nous ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et finalement, montrer cela, c'est une grande partie du témoignage, c'est comment... si on est marié, typiquement, comment donner aux gens qui nous voient envie de deux choses? Bah, envie de se marier, parce que le mariage, c'est beau, mais envie de se marier de la bonne manière. Pas qu'ils voient ça comme quelque chose de ringard et une contrainte. Non, 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 le mariage, c'est exceptionnel et on veut donner envie aux gens de se marier dans les règles, de la bonne manière. Et puis, d'autre part, on veut leur donner envie de se convertir, de comprendre ce que Jésus a fait pour eux, de comprendre l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité et pour qu'ils le vivent eux-mêmes aussi et qu'ils se l'approprient. Donc ça ne veut pas du tout dire que c'est un jeu de rôle au sens une pièce de théâtre de façade. C'est censé être quelque chose qui est vécu pour le faire. Il faut ressembler à Christ. Et ça, c'est, on en a parlé déjà dans les chapitres précédents, mais il y a vraiment la manière de vivre cela, c'est de ressembler à Christ. Et puis alors, plutôt que de conclure en vous disant quoi faire, les maris, les femmes, les célibataires, je vais peut-être juste vous lire une liste de questions qui fâchent, que ce chapitre pose. Et puis, ce soir, réfléchissez-y, parlez-en si vous êtes un couple, parlez-en, répondez à la question si vous êtes célibataire, réfléchissez-y également. Et puis, donc, toutes ces questions, c'est les femmes, est-ce que vous respectez votre mari? Est-ce qu'il le sait? Les maris, est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour elle? Est-ce que vous le lui dites? Est-ce que vous lui dites je t'aime tous les jours? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que vous dirigez spirituellement votre foyer? Est-ce que vous connaissez les besoins de votre femme? Est-ce que vous vous chargez de subvenir à ses besoins? Est-ce que vous priez pour que ses besoins soient remplis? Qu'est-ce qui lui manque en ce moment? Est-ce qu'elle peut compter sur vous? Est-ce qu'elle vous fait confiance? Est-ce qu'en tant que couple, vous êtes unis? Est-ce que ça se voit? Est-ce que vous donnez envie aux gens de l'extérieur qui vous voient en tant que couple de vivre le mariage éventuellement un jour? Est-ce que vous leur donnez envie de vivre la conversion, l'unité avec Christ? Et pour tous, est-ce que vous êtes soumis à Christ? Est-ce que vous faites confiance à Christ pour subvenir à vos besoins? Est-ce que vous êtes unis à Christ? Est-ce que vous êtes unis à votre prochain, dans l'Église, aux amis, celui que Dieu a mis sur votre route, est-ce que vous aimez votre prochain ? Voilà, je vous encourage à réfléchir à ces questions, et non pas de manière, comment dire, enfin, il y en a beaucoup, et j'imagine pas qu'on puisse faire une réponse parfaite sur toutes ces questions, mais que ça puisse être un guide pour nous, de comment progresser, comment vivre les relations hommes-femmes, dans l'Église aussi, avec nos amis, comment être unis à Christ et comment progresser dans notre vie spirituelle. Voilà, je vais finir en priant. Seigneur Jésus, tu nous as montré comment être unis. Tu nous as montré comment nous aimer. Et c'est difficile. C'est difficile de le vivre parce que notre nature humaine est toujours là. Alors nous te prions vraiment de nous enseigner, de nous enrichir avec cette étude d'Éphésiens et sa mise en pratique pour que nous puissions nous dépouiller de notre ancienne nature et mieux ressembler à Christ. Merci parce que nous avons pu voir à quel point la manière d'agir de Christ est glorieuse, aimante, et douce et parfaite. Aide-nous à lui ressembler. Et merci parce que tout ce qu'il a fait, nous en sommes au bénéfice, et nous pouvons nous appuyer dessus pour notre salut, pour nos moments de difficulté, où nous avons besoin de nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Voilà. Tim, je te rends la parole ou...